Bonjour et bon réveil. Très bon début de journée. Il est 6h. On fait le point bien sûr sur l'actualité avant le ciel qui est chafaud aujourd'hui.
Radio Chablais, suivez-nous. On vous suit.
Et les infos, c'est avec Anthony Dacampo, bonjour.
Bonjour Cyril, bonjour à tous. Vernaya réfléchit à son avenir aux côtés de Martigny. Hier soir, près de 150 habitants ont assisté à une séance publique d'information sur un potentiel projet de fusion entre les deux communes. Une rencontre participative pour faire le point et entendre les préoccupations. L'idée d'un rapprochement n'est pas nouvelle. En 2019 déjà, un sondage montrait un soutien majoritaire avec une nette préférence pour la cité octodurienne, jugée proche et bien dotée en services. Comme dans tout processus de fusion, la première étape consistera à lancer une étude de faisabilité prévue cet été, une démarche que le conseil communal souhaite mener avec les habitants. Hier soir, les participants étaient notamment invités à glisser leurs questions et inquiétudes dans des boîtes aux lettres prévues à cet effet. La présidente Stéphanie Rova-Martignoni.
C'est essentiel que la population puisse déjà maintenant, dans cette première étape, donner ses questionnements, donner son avis, s'ils en ont déjà un, mais surtout, durant le processus, d'avoir toutes les réponses à ce questionnement, pour pouvoir après vraiment se positionner en état de cause, quoi, vraiment en sachant vraiment vers quoi ils vont, le positif, le négatif, parce qu'automatiquement, il n'y a pas que d'un côté ou de l'autre. Et puis, c'est eux qui décideront.
Si l'étude s'avère concluante, une votation sera organisée début 2027. Et si la population donne son feu vert, la fusion pourrait entrer en vigueur au 1er janvier 2029. Un sujet signé Julie Guay. Le canton du Valais avait mandaté en 2023 l'Institut Tropical et de Santé Publique Suisse pour réaliser une étude mettant en lumière l'exposition aux pesticides chez les enfants. L'objectif était de voir s'il y avait des risques à court terme sur la santé respiratoire chez les élèves d'écoles primaires vivant à proximité de vignobles et de vergers et donc exposés aux pesticides. L'étude a été effectuée auprès de 204 enfants scolarisés de Chamozon, Salkenen et de Saxon. C'est la première fois qu'un canton entreprend ce type de recherche et le choix des communes n'était pas anodin. Christophe Darbelay, chef du département de l'économie et de la formation.
On avait quand même choisi des communes qui sont particulièrement exposées. On a pris Chamozon, on a pris Salkenen, là où la viticulture est emblématique, est assez extraordinaire et culturelle. Donc on a pris vraiment les cas où il y avait la plus forte exposition et combien même nous l'avons fait. Eh bien, on n'a pas relevé de problème de santé chez les enfants qui seraient liés à l'utilisation de produits de traitement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une exposition. Ça ne veut pas dire que du point de vue du principe de précaution, on ne doit pas prendre des mesures pour encore mieux protéger la santé publique et notamment les enfants.
Les résultats sont globalement bons, mais le canton du Valais va continuer à être vigilant. Différentes recommandations vont être appliquées et un plan d'action annuel sera mis en place, avec notamment de la prévention et des discussions. Un sujet proposé par Martine Wüstiner. Sous réserve des votes finaux le 20 juin, le Parlement fédéral s'est entendu pour introduire en Suisse l'imposition individuelle des couples mariés à tous les niveaux, fédéral, cantonal et communal. Hier, le Conseil des États s'est rallié au compromis voté par le Conseil national début mai. Ce sont deux blocs qui s'affrontent. Du côté des partisans de l'imposition individuelle, le PLR, la gauche et les Verts libéraux. Du côté des adversaires, l'UDC et le centre. L'alliance favorable au changement a bien tenu. La conseillère aux États libérales radicales fribourgeoises, Johanna Gapani.
C'est très bien parce qu'on avait deux éléments. On avait d'abord un changement de système qui était proposé et là ça passe. On va clairement vers l'imposition individuelle et c'est une bonne chose pour la population. Ça permet un allègement de la charge fiscale et ça permet d'encourager à l'indépendance de chacune et chacun. Et puis les autres éléments, c'était évidemment des questions plutôt de détails.
Cette alliance entre la gauche et le PLR, elle a vraiment bien fonctionné. On a un bon compromis qui est sorti du Conseil national auquel vous avez pu vous rallier.
Surtout cette alliance, elle permet d'entériner un changement qui est favorable à la population. De plus en plus de personnes travaillent au sein des couples et le système dépassé de l'imposition qu'on applique aujourd'hui, qui a été corrigé par les cantons de différentes manières, il n'est plus d'actualité.
Vous saurez faire campagne ensemble avec la gauche. S'il faut aller devant le peuple, c'est vraisemblable.
J'en doute pas.
Des propos recueillis par Serge Jubin, notre correspondant parlementaire. La loi votée par le Parlement générera un manque à gagner de 600 millions de francs pour l'impôt fédéral direct. Il est probable que le peuple ait le dernier mot. L'initiative favorable à l'imposition individuelle reste d'actualité. UDC et Centre vont certainement lancer le référendum, votation probable au premier semestre 2026. Greenpeace a rendu hier la statue en cire d'Emmanuel Macron, dérobée la veille au musée Grévin. L'ONG l'a déposée devant le siège d'EDF à Paris afin de dénoncer les liens économiques, notamment sur l'énergie, entre la France avec la Russie. D'importantes fumées provoquées par de violents incendies au Canada survolent le nord-ouest de l'Europe. Situées à très haute altitude, elles sont sans danger pour la santé. Les dizaines de méga-feux dans le centre du Canada, qui ont déjà provoqué l'évacuation de 26 000 personnes, continuent de se propager et leur fumée affecte des millions de Canadiens et d'Américains. Le nouveau président sud-coréen Lee Jae-myung s'est engagé aujourd'hui à renouer le dialogue avec la Corée du Nord. Il veut aussi améliorer les relations avec le pays voisin doté de l'arme nucléaire. Il a promis de dissuader les provocations militaires nord-coréennes tout en ouvrant des voies de communication. Et en football, la natie féminine n'a pas réussi à obtenir son maintien en Ligue des Nations. Opposée à la Norvège hier à Tourbillon, les Helvètes se sont inclinées sur la plus petite des marges, 1-0. L'ouverture du score des visiteuses dès la 4e minute de jeu a porté un premier coup au moral des Suissesses, incapable de vraiment inquiéter les Norvégiennes par la suite. La Nati boucle donc cette Ligue des Nations avec une 4e défaite en 6 matchs et une relégation à la clé. On écoute la déception de la défenseur helvète Viola Caligari, qui tente tout de même de relever le positif.
Oui, je crois, si on regarde vraiment les choses qu'on a bien fait, même ce match-là maintenant, je crois qu'il faut vraiment se focaliser sur la deuxième mi-temps. Là, on était vraiment bien. Je crois elles ont eu presque rien, des fois en contre-attaque, mais je crois qu'il faut vraiment être comme ça agressif, comme ça haut, et je crois que c'est bien pour l'équipe.
Des propos recueillis à Tourbillon par Valentin Marclay. Les joueuses de l'équipe de Suisse profiteront désormais de quelques jours de congé avant d'entamer la préparation pour l'Euro 2025. Un Euro qu'elles lanceront le 2 juillet prochain à Bâle face à la Norvège.
Bon, on verra ce que ça va donner. Merci Anthony.
À tout à l'heure.